d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, c'est la version assez cette semaine. Alors ce soir nous allons vous diffuser des extraits du forum chômeurs, précaires, intermittents, un revenu et des droits pour exister. C'est un forum qui s'est tenu le 24 octobre à la salle Jean Dame dans le 2e arrondissement de Paris à l'initiative d'AC, mais où bien sûr étaient invitées toutes les associations de chômeurs et de nombreux chercheurs. Alors, un emploi, c'est un droit, un revenu, c'est un dû. C'était le slogan d'AC à sa naissance en 1994. À l'heure de la disparition de l'emploi, selon certains, et d'un chômage de masse deux fois supérieur à ce qu'il était à l'époque, nous nous demanderons si ce slogan reste d'actualité ou s'il est appelé à être remplacé par des formes de revenus de base ou de salaire à vie. Donc, vous allez entendre dans l'extrait qui ne va pas venir tout de suite, hein, successivement le sociologue Mathieu Grégoire et Christine Ijax de Réseau Salarial. L'introduction a été faite par Odile Merkling. Odile Merkling, qui effectivement constatait une destruction du salariat, hein, qu'on constate nous aussi, enfin que constatent en tout cas les chômeurs, et d'une montée de la précarité, hein, au cours des 20 dernières années, et qui conduit en fait à passer d'un discours, hein, de la fin du travail à un discours de la fin de l'emploi. Alors on s'explique, hein, la fin du travail, c'était une vieille lune marxiste, diraient certains, qui consistait à penser que la mécanisation, les nouvelles technologies, en quelque sorte, conduiraient progressivement à une libération du travail, hein, par l'homme. Et puis, nous constatons que en 2015, il n'a jamais été aussi près de la vérité, à ceci près que les 6 millions de chômeurs, en comptant large, n'ont évidemment pas tous les revenus pour subsister. Et donc, effectivement, on passe de la fin du travail à celui de la fin de l'emploi sans revenus de substitution. Alors, les revendications des mouvements de chômeurs ont toujours été une sécurité sociale du travail, voire un revenu d'existence, et on y viendra plus tard, en tout cas une assurance contre le chômage et une indemnisation unique, en quelque sorte sur le modèle des intermittents, puisque nous constatons la montée de la précarité et des formes d'emploi discontinues. Alors là, nous avons une spécificité bien française qui est le salaire socialisé. Et le salaire socialisé est évidemment à différencier de l'assistanat et de l'assistance qui est conduite, hein, dont la forme la plus évidente aujourd'hui est le RSA, ancien RMI. Le salaire socialisé, eh bien évidemment, ce sont des revenus prélevés sur le travail, à la source, pourrait-on dire, hein, sur la feuille de paye, et qui, finalement, est à la base de la création de la sécurité sociale, c'est-à-dire la retraite, l'indemnisation du chômage et l'assurance sociale en cas de maladie, conquête de haute lutte obtenue en 1945, et qui ont fait à la fois qui ont construit la sécurité sociale au travail et pour la retraite, et qui ont permis, hein, qui ont donné à la France cette spécificité qui fait de nous, auprès des Américains, un pays socialiste. Alors, évidemment, ces questions, hein, aujourd'hui sont de nouveau débattues avec la montée du chômage et de la précarité, puisqu'évidemment, un grand nombre de chômeurs n'étant pas indemnisés sont exclus de cette forme de redistribution, hein, du salaire socialisé, et connaissent effectivement des formes d'assistance telles que sous forme d'allocation sociale, et notamment, donc on l'a dit, hein, du RSA, mais pas que. Alors l'objectif de cette conférence était d'arriver à une plateforme de revendication et puis aussi à balayer à discuter en quelque sorte la nouvelle problématique qui se pose aux chômeurs avec, il faut bien le constater, cette fameuse disparition de l'emploi. et évidemment éventuellement de produire un livret de synthèse à destination des médias. Alors la table ronde 1 était consacrée au nouveau statut du salarié ou du producteur. Alors c'était tout à fait intéressant puisque il y avait Mathieu Grégoire, un sociologue, qui nous a effectivement parlé de cet axe revendicatif, désormais du nouvel axe revendicatif qu'il faudrait trouver pour les associations de chômeurs. Et donc, la question, parce que c'est toujours l'éternelle question d'assez, en finir avec le chômage, faut-il en finir avec le chômage? Et en finir avec le chômage, passe-t-il réellement par le plein emploi? Et sa réponse est aujourd'hui claire, le discours du plein emploi est un discours patronal. Et il poursuit, ce sont des promesses de marchands de sable depuis 40 ans, puisque le chômage n'a cessé de croître pour atteindre 6 millions de chômeurs, et de plus en plus de précaires et d'alternance entre emploi et chômage. Donc il y a donc une intermittence de l'emploi aujourd'hui pour une catégorie, une certaine catégorie de la population de plus en plus importante.
Avant de regarder un petit peu ce que doit être une indemnisation chômage, c'est de se poser la question de l'axe finalement revendicatif et en particulier de s'interroger sur ce qui est la solution a priori au chômage, qui est l'emploi. Je vais essayer de défendre une thèse qui est pas toujours facile à faire entendre, qui est de dire que en finir avec le chômage ne passe pas nécessairement par une revendication d'emploi. Et qu'au contraire, cette revendication de plein emploi, elle a des aspects mortifères, puisqu'elle est reprise en permanence par le patronat dans un chantage assez permanent. Alors, promettre que le seul salut collectif des chômeurs proviendra de l'emploi, c'est d'une certaine manière une promesse de marchand de sable. C'est une promesse de marchand de sable parce que on a du mal à croire, après 40 ans de chômage de masse, à la promesse d'un emploi stable à part entière pour les 6 millions de chômeurs que la France connaît aujourd'hui. On a du mal à imaginer comment demain ces 6 millions de chômeurs pourraient trouver 6 millions de CDI. Donc la question, c'est de s'interroger sur les autres voies possible. Par ailleurs, il y a un autre élément qui est très important dans les dernières années, c'est que on a vu apparaître effectivement une frange du salariat qui alterne en permanence entre emploi et chômage. Des intermittents au-delà des intermittents du spectacle. Les intermittents du spectacle vivaient sur ce mode-là depuis très longtemps. Ce mode-là d'emploi se généralise sans les droits qui vont avec. Entre 1996 et aujourd'hui, les chômeurs des catégories B et C, c'est-à-dire ceux qui, précisément, dans le même mois, connaissent de l'emploi et du chômage, a augmenté de 270%. Pendant ce temps-là, les chômeurs de catégorie A, ils augmentaient de 17%. Donc on a une hausse massive de ce modèle-là, et qui pose beaucoup de questions, parce qu'évidemment, le système d'indemnisation n'est pas forcément tout à fait adapté à cette situation d'intermittence de l'emploi. Un autre élément qui me fait dire que le plein emploi est une promesse de marchand de sable, c'est que pendant que le chômage augmentait, l'emploi n'a cessé d'augmenter aussi. C'est-à-dire, l'idée selon laquelle l'emploi disparaîtrait, etc., est un mensonge. Depuis 1993, le taux d'emploi n'a cessé d'augmenter. Donc, des emplois, il y en a de plus en plus. Alors, comment expliquer le paradoxe qu'on ait de plus en plus de chômeurs et de plus en plus d'emplois? C'est qu'à chaque fois que des emplois se créent, l'âge de la retraite recule. Et donc, le taux d'emploi, lui, il continue d'augmenter. Il y a de plus en plus de gens, quand vous prenez la population en général, il y a de plus en plus, la proportion est toujours plus grande de ceux qui sont en emploi. Et en même temps, toujours plus grande de ceux qui sont en chômage. Ce qui diminue, c'est les retraites. C'est entre 60 ans et 65 ans, il y a de moins en moins de retraités et de plus en plus de personnes en emploi. Voilà ce qui aussi remet un tout petit peu les pendules à l'heure par rapport à l'idée que, effectivement, le machinisme entraînerait nécessairement une baisse de l'emploi. Alors, surtout, le plein emploi est une promesse de marchand de sable parce que, d'une certaine manière, il vise à endormir les électeurs de promouvoir la croyance au plein emploi comme seule solution possible et de cacher d'une certaine manière ses effets dévastateurs. Donc les effets dévastateurs du plein emploi et de cette croyance que seul le plein emploi pourra être la planche de salut des chômeurs, c'est quoi ? C'est qu'une grande partie de la population continue d'être laissée de côté avec des droits en régression constante. Le nombre de chômeurs, notamment non indemnisés, ne cesse de grandir. On a un chantage permanent à l'emploi dans les entreprises. Les salariés à l'emploi stable sont aussi concernés par cette question du chômage parce que la menace pèse en permanence sur eux d'être mis au chômage. Par ailleurs, les employeurs passent leur temps à opérer un chantage auprès de l'État et un chantage sur les finances publiques, puisque le contribuable va payer une grande partie des obligations salariales des employeurs qui en redemandent. Il y a eu les allègements Fillon, le CICE, le crédit impôt recherche, etc., etc. À chaque fois, c'est le contribuable qui se substitue à l'employeur pour payer la protection sociale des salariés. Enfin, un effet dévastateur sur les salariés eux-mêmes, sur les demandeurs d'emploi qui sont tenus d'être job ready, d'être employables, chacun étant tenu pour responsable de son chômage, de son incapacité finalement à être exploité dans une entreprise. Et on retrouve, disons, dans des dispositifs qui étaient au départ des dispositifs d'insertion ou dans des dispositifs d'emploi aidé qui étaient au départ conçus pour des personnes qui connaissent des handicaps particuliers, on retrouve des personnes qui ont en réalité n'ont aucun de ces handicaps et qui sont tout à fait en réalité employables et dont passe notre temps à dire qu'ils ne sont pas employables, qu'ils sont des handicapés sociaux, que etc. etc. Donc voilà les effets dévastateurs de cette recherche en permanence de l'emploi à tout prix. Alors, est-ce qu'on a tout essayé pour autant ? Est-ce que finalement on peut trouver une autre solution à ce chômage que la revendication du plein emploi ? Bon, modestement, il y a une piste qui n'a pas franchement été explorée et qui s'appuie sur les travaux de la sociologie depuis le début des années 80. Depuis les années 80, les sociologues disent que finalement, certes, on trouve une forte partie des chômeurs qui vivent le chômage comme un drame, mais il existe une partie des chômeurs pour qui le chômage n'est pas forcément, nécessairement, un drame. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a appelé le chômage inversé, etc. Il y a des chômeurs, dans certaines conditions d'indemnisation, etc., qui, au fond, ne connaissent pas de drame. Donc la question, la solution, qui n'est pas glorieuse, hein, mais qui pourrait être mûrie, réfléchie, c'est de généraliser ces conditions, de faire en sorte que le chômage cesse d'être un drame et que se généralise un chômage qui, certes, ne soit pas le bonheur absolu, mais qui ne soit pas vécu comme la pire des calamités. Donc, la question, c'est comment généraliser cette affaire-là, comment transformer le chômage en donnant des droits nouveaux aux chômeurs, en décentrant les revendications de l'emploi vers les droits des chômeurs, vers les droits des salariés précaires, vers les droits des salariés à l'emploi discontinu. Alors c'est ce que je vais essayer de faire dans un deuxième temps, en essayant de lancer quelques pistes pour transformer l'assurance chômage. Le but essentiel, ce serait de dire des droits pour tous, donc extension des droits pour tous les chômeurs, puisque vous savez qu'aujourd'hui les taux de couverture sont en régression, que nombre de chômeurs n'ont aucun droit, ne bénéficient pas de l'assurance chômage en tout cas, et des droits adapté à ces nouvelles formes d'emploi et à ces nouvelles formes de salariat à l'emploi discontinu. Donc des droits adaptés à la discontinuité d'emploi. Il me semble que c'est l'intérêt de tous, c'est l'intérêt des précaires évidemment, mais c'est aussi l'intérêt des salariés à l'emploi stable, dont les aspirations sont en permanence étouffées par le chantage à l'emploi dont j'ai parlé précédemment. C'est aussi une manière peut-être plus acceptable d'avoir une flexibilité qui aujourd'hui est imposée en imposant simplement de la précarité aux salariés. Autrement dit, prendre acte qu'il existe de la précarité, qu'il existe de l'emploi précaire et donner des droits à ces salariés précaires plutôt que de passer notre temps à expliquer à ces salariés que ils auront que de leur donner des droits, ce serait favoriser la précarité, ce serait favoriser prendre acte du fait que finalement, les précaires sont condamnés à rester des précaires. Donc la question qui est posée, c'est pourquoi les salariés les plus flexibles devraient être les plus précaires? Pourquoi les salariés qui travaillent au bon endroit, au bon moment, seraient condamnés à être des salariés de seconde zone? Le deuxième enjeu qui est très fort et qui va encore être posé lors de la négociation d'assurance chômage, ce serait de faire de l'assurance chômage un territoire démocratique. Avec le paritarisme, la gestion des droits des chômeurs est aujourd'hui du ressort principal d'un seul acteur qui a l'hégémonie sur l'UNEDIC, c'est le MEDEF. Donc le gouvernement, au nom du dialogue social, lui, est en retrait, il prétend ne plus avoir pour seul rôle que de valider juridiquement la convention d'assurance chômage, avec le succès qu'on a vu. Puisque Rebsamen a validé juridiquement la convention d'assurance chômage qui a été retoquée au Conseil d'État. Donc voilà le rôle du gouvernement. Et donc c'est à des gâtas, à des pillards, qui finalement n'ont d'autre légitimité que de représenter une infime partie de la population qui détient les droits de propriété sur des entreprises, à qui on confie le soin de décider du droit de l'ensemble des chômeurs. Donc il me semble urgent de revenir à ce qui était l'esprit de 1945, dont j'imagine que Christine va parler, en revendiquant une démocratie sociale contre le paritarisme, en confiant la gestion de l'assurance aux intéressés, comme on disait en 1945, sans demander leur avis aux employeurs. Disons que pour notre salaire individuel, vous ne demandez jamais l'avis à votre employeur pour savoir comment vous allez dépenser votre salaire individuel. La question, c'est de généraliser ça à notre salaire collectif, qui est le salaire de la cotisation sociale, dire nous n'avons pas à demander au MEDEF de décider comment nous allons dépenser cet argent. Collectivement, les salariés peuvent décider comment dépenser cet argent, c'est-à-dire comment organiser une démocratie faire en sorte de trancher, de délibérer, de trancher, en disant que si c'est la solution de la CFDT qui recueille le plus les suffrages des salariés, si c'est celle de la CGT qui recueille le plus les suffrages, voilà ce qu'on va faire. En tout cas, il semble urgent de revenir à davantage de démocratie. Le troisième point que je voulais aborder, c'est la question du financement. C'est le dernier point. Il me semble qu'il y a deux fausses bonnes idées qui circulent, disons, à gauche. La première fausse bonne idée, c'est de remplacer les droits des chômeurs par un revenu garanti financé par l'impôt. C'est pas dans le revenu garanti, c'est pas le fait que ce soit garanti qui pose problème, vous l'avez bien compris. C'est le fait que ce soit financé par l'impôt. Pourquoi? Parce que si vous appliquez ça immédiatement demain, ça signifie que vous faites un cadeau de 35 milliards d'euros, c'est-à-dire le budget de l'UNEDIC, au patronat. C'est-à-dire que vous dites au patronat, vous n'avez plus à payer ces 35 milliards d'euros de salaire socialisé, nous allons demander au contribuable de s'en charger lui-même. Donc autrement dit, vous faites un cadeau de 35 milliards au patronat, et par ailleurs vous changez, disons, le rapport social qui est au cœur de l'assurance chômage, c'est-à-dire vous faites en sorte que le conflit ne s'opère plus entre des salariés et des employeurs, entre les intermittents, les chômeurs qui vont manifester devant le MEDEF, et vous passez à un conflit, à un rapport social qui va être celui du chômeur contre de celui qui a un revenu garanti contre le contribuable dont on sait qu'il en a ras-le-bol, etc., etc., et qui vote Le Pen. Donc il faut savoir aussi choisir ses adversaires et ses interlocuteurs. Et il me semble que de ce point de vue, maintenir ne pas battre en retraite face au MEDEF, c'est quelque chose d'important. La deuxième fausse bonne idée, qui est encore plus répandue parmi la gauche, c'est la modulation des cotisations. C'est-à-dire l'idée, en apparence très, très intéressante, de faire payer davantage les mauvais employeurs et moins les bons employeurs. Autrement dit, de faire payer davantage de cotisations à ceux qui ont recours à des contrats à durée déterminée ou à des contrats précaires. Alors pourquoi c'est une fausse bonne idée ? Un premier indice, c'est que ça a été, ce que promeut aujourd'hui un économiste néolibéral comme Cahuc, donc qui a fait des travaux dans les derniers mois pour faire des propositions pour la négociation d'assurance chômage à venir, et qui, en gros, prennent pour modèle le modèle de système d'assurance chômage américain, qui est fondé là-dessus, qui est fondé sur le fait que chaque employeur paye d'une certaine manière c'est sa propre pollution, c'est-à-dire il paye en fonction, le montant qu'il paye est fonction de des dépenses qu'il occasionne à l'assurance chômage. Donc c'est la modulation absolue aux États-Unis. Alors pourquoi c'est pas une bonne idée? Le premier argument, c'est de dire que cette affaire-là doit avoir des effets incitatifs, c'est-à-dire d'inciter les employeurs à être plus vertueux. Et vous voyez que si on module juste la cotisation chômage, c'est-à-dire une partie infime du salaire, l'incitation sera trop faible. C'est-à-dire on parle de montants qui sont trop faibles pour avoir un effet sur le choix du type de contrat. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous mettre à faire des CDI à mort parce que votre CDD vous coûte 7% ou 10% de taux de cotisation alors que c'était 5% auparavant. D'accord ? Tout ça est absurde. On l'a vu avec les intermittents du spectacle. En 2002, ils ont doublé le montant des cotisations et on n'a pas vu, après 2002, des CDI se faire en pagaille dans le secteur du spectacle. On a même plutôt vu l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de substituer des CDI au contrat déterminé, ce qu'on a vu, c'est des compagnies de plus en plus exsangues, à cause notamment du fait qu'on leur demandait des cotisations plus fortes, et qui avaient recours de plus en plus à la précarité. Donc l'effet inverse. Si on voulait être incitatif, il ne faudrait pas parler du taux de cotisation, il faudrait parler du salaire entier. Il y a un scandale qui est quand même, à mon avis, extrêmement fort, c'est qu'aujourd'hui, une femme de ménage, admettons, comparons une femme de ménage et un agent d'entretien, une femme de ménage qui travaille 2 heures par-ci, 2 heures par-là, elle va gagner autant, d'une certaine manière, qu'un agent d'entretien en CDI qui va travailler 4 heures. Est-ce qu'on peut imaginer que le fait que pour cette femme de ménage, faire 35 heures, ce soit une acrobatie, un exploit dans sa semaine, alors que l'agent d'entretien qui est en CDI va faire 35 heures de manière assez naturelle? Est-ce qu'on peut envisager que les salaires de ces personnes ne soient pas proportionnés, soit que le salaire de la femme de ménage soit supérieur à l'heure, le salaire horaire soit bien supérieur à celui de l'agent d'entretien en CDI? Voilà. Le dernier élément, c'est que quand on gère une assurance chômage, on a des besoins définis, c'est-à-dire on a besoin, là, actuellement, de 35 milliards d'euros. Si vous commencez à faire payer moins, à demander moins à ceux qui ont recours en CDI, ou demander plus à ceux qui ont recours en CDD, en fait, vous demandez moins aux autres. D'accord ? Donc, implicitement, vous baissez le taux de cotisation des personnes en CDI. Or, la puissance économique de l'assurance chômage, comme de toute assurance sociale, c'est de s'appuyer sur des excédents, sur la force du fait qu'il y a beaucoup de CDI stables pour dégager un excédent. La Cour des comptes avait montré que c'était 12 milliards d'euros d'excédent dans les CDI. S'il n'y a pas assez CDI pour payer des cotisations, ou si vous baissez les cotisations sur ces personnes-là, vous baissez la solidarité et vous baissez les capacités économiques de l'assurance chômage à couvrir l'ensemble des chômeurs. Alors je voudrais juste terminer en donnant quelques chiffres pour dire qu'adapter les droits des chômeurs n'est pas forcément très coûteux. On l'a montré sur les annexes 8 et 10, mais si on reprend quelques chiffres pour conclure, vraiment, aujourd'hui, l'assurance chômage plus le RSA, c'est en gros 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros à comparer aux 450 milliards d'euros que représente la sécurité sociale. Donc vous voyez qu'alors que le chômage est censé être le sujet numéro 1, on y consacre 40 milliards, soit 10 fois moins que pour le reste de la protection sociale. Il y a des marges de manœuvre. En 2013, le chômage, RSA compris, c'était 1,9% du PIB. On était à 2,8% du PIB en 85. Si on en restait aujourd'hui, si on était resté à 2,8% du PIB aujourd'hui, on aurait 20 milliards de plus à consacrer à ces questions. Avec 20 milliards de plus à consacrer à ces questions, je pense qu'on peut commencer à envisager à couvrir une grande partie des chômeurs et à généraliser des règles adaptées sur le modèle des annexes 8 et 10 à l'ensemble de ceux qui sont dans l'emploi discontinu. Merci.
Bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. C'est l'émission Mode d'emploi, l'émission d'Agir ensemble contre le chômage cette semaine. Vous venez d'entendre Mathieu Grégoire, le sociologue, à la conférence organisée par AC sur un revenu, des droits pour exister.
Bonjour à tous.
Concernant les chômeurs et précaires. Eh bien, Nous allons maintenant vous passer le deuxième extrait de la conférence. C'est Christine Jax de Réseau Jax, j'espère que je prononce bien, de Réseau Salarial, qui vous parle bien entendu du salaire à vie et du revenu de base. Merci.
Bonjour à tous. Je remercie aussi assez pour l'invitation. Donc je vais vous parler du salaire à vie puisque c'était la commande, mais aussi de la maîtrise de la valeur créée parce que l'un ne va pas sans l'autre, enfin dans, du moins dans l'esprit de Réseau Salariat, et ce sont un peu les thèses de Réseau Salariat que je vais vous présenter aujourd'hui. Et en fait, quand on dit le salaire à vie, effectivement, dans notre esprit, ce n'est pas possible d'en passer autrement que par la maîtrise de la valeur créée, c'est-à-dire la valeur de ce que l'on crée chaque année, nous autres, que ce soit les indépendants, les salariés, les chômeurs, les retraités, etc. Nous disons que tout le monde travaille et produit de la valeur et certainement pas le capital. Donc cet élément est un élément clé par rapport à la démonstration que je vais vous faire. Alors on est parti de constat, tout simplement, hein, rien de révolutionnaire là-dedans. Marx nous l'a montré depuis la fin du XIXe siècle. Il existe plusieurs institutions du capital, dont deux qui lui sont centrales. Et donc vous allez en retrouver une que vous connaissez sans doute bien. La première, disons, c'est la propriété privée lucrative, qui donne le droit à une poignée d'individus, de capitalistes, de s'approprier les moyens de production et de générer une valeur qu'ils maîtrisent totalement et qui nous échappe. Et la deuxième institution, elle a été évoquée tout à l'heure en introduction et par Mathieu, c'est le marché du travail. Sans le marché du travail, et je pèse mes mots, hein, c'est le marché de la force de travail. Sans le marché de la force de travail, le capital ne peut pas fonctionner. Et quand on dit marché du travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on considère en fait les travailleurs comme une marchandise à exploiter, évidemment. Cette marchandise qui est la seule capable de créer de la valeur et de la survaleur pour le capital. Donc ces deux institutions sont absolument violentes pour nous, hein, travailleurs, puisqu'elles dénient en fait la qualité de producteur que nous portons tous, que ce soit les chômeurs, les retraités, les fonctionnaires, et elles nous empêchent de maîtriser ce que l'on produit et comment on le consomme. À ceci près que grâce aux luttes syndicales notamment, aux luttes politiques, aux luttes des salariés, une institution a vu le jour, s'est généralisée en 1945, c'est la cotisation sociale. Alors plus précisément la cotisation sociale patronale. Le mot est très mal choisi, je vais vous expliquer pourquoi, elle n'a rien du tout de patronale. C'est pas non plus tout à fait une cotisation dans l'esprit où on la stockerait quelque part, puisqu'on raisonne toujours en flux avec la cotisation sociale. Alors pourquoi cette institution est subversive ? Parce qu'elle a prouvé qu'elle était en capacité de financer du salaire socialisé. Nous, à Réseau Salariat, on ne considère pas la sécurité sociale comme un outil de justice sociale ou de solidarité. On considère au contraire qu'il s'agit, enfin c'est pas vraiment au contraire, on considère du moins qu'il s'agit d'une institution qui nous permet de prouver qu'on est en capacité de payer du salaire socialisé, le salaire socialisé qui a financé finalement les parents, les soignants, les chômeurs, les retraités. Mais elle n'a pas seulement été en capacité de financer du salaire, elle a été aussi en capacité de financer des investissements lourds, puisqu'en 1958 ou 59, je n'ai plus en tête la date exacte, les CHU ont été créés et ont été financés totalement par la cotisation sociale. Aujourd'hui, les investissements lourds qui interviennent dans ces hôpitaux sont pris en charge aussi par la cotisation sociale. Donc cette institution nous prouve qu'elle est en capacité non seulement de financer du salaire socialisé, mais aussi de financer des investissements lourds. Donc ça préfigure quelque part une société qui serait débarrassée finalement du capital. Donc la cotisation sociale, elle nous prouve que tout le monde est potentiellement producteur de valeur. Donc ce point est important. Et donc que l'on pourrait être en capacité, on l'a déjà été d'ailleurs, en capacité de maîtriser la valeur que l'on crée. Alors pourquoi la cotisation sociale est subversive? Des choses ont été dites tout à l'heure qui vont faire écho. Donc en 1945, quand la sécurité sociale apparaît, effectivement, elle est gérée, et c'est le Conseil national de la résistance qui le souhaite ainsi, qu'elle soit gérée par les représentants des salariés, par les représentants même des intéressés, ce qui est encore plus plus révolutionnaire, je pense. Puisqu'effectivement, quand la cotisation a été créée, en généralisée en 1945, les caisses étaient gérées aux deux tiers par les représentants des salariés et un tiers par le patronat. Autant dire qu'elle était gérée par les représentants des salariés et que les décisions étaient prises, du coup, par les intéressés. Le deuxième élément subversif de la cotisation sociale, c'est qu'on ne passe à aucun moment par le marché du travail, donc cette institution du capital, et encore moins par les marchés financiers. Pourquoi ? Parce que la cotisation sociale, pour être transformée en prestation, en salaire socialisé, elle met un jour. Elle ne passe pas par les banques. Donc elle ne fait pas l'objet d'accumulation financière. Et le troisième caractère subversif de la cotisation sociale, c'est un petit peu plus technique, je vais vous en faire la démonstration tout à l'heure, c'est que c'est en fait une préemption, c'est-à-dire une partie de la valeur que l'on crée chaque année, qui s'appelle la valeur ajoutée, en fait, qui est prise et qui est dédiée au financement des salaires socialisés, dont l'indemnisation du chômage. Et donc, elle est prise au moment de la répartition primaire de la valeur. Ce point est important parce qu'il permet de différencier la cotisation sociale de la fiscalité, qui, elle, est redistributive et qui s'appuie sur le capital et le travail pour exister. Sans elle, en fait, sans le capital et sans le travail, la fiscalité ne peut pas exister, ce qui n'est pas le cas de la cotisation sociale. Elle n'a pas besoin de s'appuyer sur ces deux institutions pour fonctionner. Alors voilà pourquoi. Je suis désolée, je vais être obligée de faire un peu technique, mais ce point est important pour comprendre en fait le projet de réseau salariat et notamment de salaire à vie. Quand une entreprise fabrique des marchandises et qu'elle les vend, donc en multipliant le prix de vente par le nombre de marchandises vendues, on obtient le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est généralisable à l'ensemble de la société, évidemment. Avec ce chiffre d'affaires, l'entreprise va payer ses consommations intermédiaires, c'est-à-dire toutes les matières premières qui sont entrées dans la fabrication de la marchandise, qu'il s'agisse d'un bien matériel ou d'un service, du reste. Une partie va aller au salaire brut. Le salaire brut, c'est le salaire net plus la cotisation salariale. Une autre partie va aller à nos fameuses cotisations patronales. D'accord ? Donc je l'ai mis entre guillemets parce que le terme n'est pas du tout adéquat. Une partie va pour payer, assez négligeable, hein, mais pour payer un impôt, une fiscalité qui déroge à l'ensemble du reste de la fiscalité de ce point de vue. Donc c'est l'impôt sur la production, mais c'est 5%. Hein. Et le reste va au profit. Donc tout ceci constitue la valeur nouvelle créée chaque année. On appelle ça la valeur ajoutée ou le PIB, si vous préférez. Le PIB dont on en rabat les oreilles pour qu'il soit en croissance. On est là au niveau de la répartition primaire. Donc vous voyez que la cotisation patronale a le même statut que le salaire et le profit. Elle est prise sur le chiffre d'affaires débarrassé du coût des consommations intermédiaires, même si elle est calculée en proportion du salaire brut. Souvent on confond, on croit que c'est retiré du salaire brut. Pas du tout. C'est prélevé de la valeur ajoutée. Ce point est vraiment important. Donc elle va alimenter les caisses de l'URSSAF ou de l'ACOS ou de l'UNEDIC. L'ACOS, en fait, c'est la structure de recouvrement de l'ensemble des URSSAF. L'UNEDIC est un système un petit peu à part, mais qui fonctionne de la même manière. À l'URSSAF, viennent abonder les cotisations salariales et la CSG, qui ont un statut moins intéressant que la cotisation patronale. Et ceci va immédiatement, c'est-à-dire en une journée en fait, être transformé en salaire socialisé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'accumulation financière. Donc ça va financer le salaire des soignants, ça va financer le salaire des retraités, c'est les pensions, ça va financer les indemnités chômage, financées par le régime d'assurance chômage, ça va financer les indemnités journalières des malades, et tout ceci constitue le salaire socialisé. Alors ça finance aussi les médicaments, je l'ai mis à part, parce que là on tombe dans la sphère capitaliste, hein, puisque la fabrication malheureusement des médicaments ne relève pas du tout d'un service public. Et ça a financé, ça continue de financer les équipements des CHU. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans une logique de redistribution, mais dans une logique de distribution immédiate. Ce point est vraiment essentiel. Et donc, tout à l'heure, je vous disais que mon cotisation n'avait pas beaucoup de sens parce que personne, en réalité, ne cotise. Personne ne met de côté. Vous voyez bien que c'est dans la répartition primaire que tout se joue. Il suffit de décider de prendre 20, 30, 40% de la valeur ajoutée, de l'affecter aux caisses de sécurité sociale pour payer les salaires socialisés. Donc on ne cotise pas, on ne met pas de côté. Quand l'indemnisation du chômage a prévu un jour cotisé égale un jour indemnisé, c'est une aberration complète. Quand les réformes des retraites sont apparues et ont augmenté la durée de cotisation obligatoire, c'est une aberration complète. Quand vous avez des enfants qui tombent malades, ils n'ont jamais cotisé, ils bénéficient du régime d'assurance chômage. Les retraites de réversion, c'est identique. La personne qui survit, elle n'a jamais cotisé. D'accord ? Les cadres, les premiers cadres qui sont partis à la retraite avec le régime complémentaire de la GIRC n'avaient jamais cotisé avant. Il n'y a pas besoin de cotiser pour avoir droit à un salaire socialisé. Alors je vous disais tout à l'heure, la cotisation, le mot patronal est absolument aberrant. Ce n'est pas tiré de la poche du patron, c'est tiré de la valeur produite par nous autres salariés et indépendants et chômeurs et retraités. C'est le fruit de notre production à nous, ce n'est pas du tout le fruit de la production du patronat. C'est pas mal. Il m'en reste 5 minutes, c'est bien. Donc nous, ce que nous revendiquons à Réseau Salariat, c'est tout simplement d'augmenter la partie de valeur ajoutée qui serait dédiée aux salaires socialisés, dont l'indemnisation du chômage, et tous les autres salaires socialisés qui sont énumérés ci-dessus. Et surtout, il faut bien comprendre qu'il s'agit là d'une décision politique et absolument pas d'une décision conjoncturelle, économique, une fatalité quelconque. C'est vraiment une décision politique. D'ailleurs, toutes les décisions qui ont été prises depuis 40 ans, et ça a été dit tout à l'heure, ont été dans le sens de la régression, et on a bien affaire à des décisions politiques, absolument pas d'un autre ordre. Donc l'alternative proposée par Réseau Salariat, eh bien, c'est d'étendre la cotisation patronale à l'ensemble du PIB, de la valeur ajoutée. Revoilà le PIB, aujourd'hui c'est 2000 milliards d'euros, donc on fabrique chaque année 2000 milliards d'euros en moyenne en France. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une partie, la partie jaune, est reversée aux salariés, c'est le salaire brut. Une partie aux cotisations patronales, c'est la partie rouge, et une partie qui reste au profit. Pour l'instant, la cotisation sociale, elle finance les salaires socialisés et certains investissements se CHU. Donc nous, on se dit à Réseau Salariat, et pourquoi pas étendre la logique de la cotisation sociale à l'ensemble du PIB, c'est-à-dire manger la partie marché du travail avec le salaire direct et la partie profit, c'est-à-dire propriété lucrative du capital. De manière à avoir une partie qui serait dédiée complètement à des caisses de salaire à vie, on les appelle comme ça. Bon. C'est du salaire socialisé, en fait, comme il en existe actuellement pour les retraités, les chômeurs, etc., etc., mais aussi pour les fonctionnaires. Hein. C'est une caisse mutuelle qui existe pour les fonctionnaires. Et le solde, on a prévu 40% pour l'investissement dans des caisses d'investissement, une cotisation économique. Donc vous voyez bien qu'on se débarrasse du marché du travail. Ça ne veut pas dire qu'on se débarrasse du travail. Le travail n'est pas l'emploi. Le travail n'est pas le marché du travail. Il ne faut pas confondre les deux définitions, d'accord ? On peut travailler en dehors du marché du travail. C'est le cas des fonctionnaires, des retraités, des soignants, etc. Donc se débarrasser du marché du travail qui est cette institution du capital, mais conserver évidemment le travail, comme c'est la seule façon de produire de toute façon. On se débarrasse du capital, voilà, puisqu'on n'a plus de profit et de propriété lucrative et de marché du travail. Et donc, on obtient un PIB qui a une nouvelle configuration, une nouvelle forme. La caisse des salaires, à peu près 60% du PIB, et les caisses économiques, j'y reviendrai peut-être une autre fois, je ne vais pas m'étendre là-dessus, qui serait à peu près de 30% du PIB, de 40% pardon, du PIB. Tout ceci, évidemment, en se calant sur le modèle de la sécurité sociale qui était à l'époque géré aux deux tiers par les représentants des salariés, donc dans une configuration démocratique, on pourrait même étendre d'ailleurs cette gestion-là au-delà des salariés, à des associations, enfin à géométrie variable, enfin bon.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Vous êtes dans l'émission Mode d'emploi, l'émission d'Agir ensemble contre le chômage cette semaine. Et vous venez d'entendre Christine Jax de Réseau Salarial nous parler du salaire à vie et de la maîtrise de la valeur créée. Vaste concept, vaste concept. Et maintenant, place au débat.
On va engager le débat maintenant, donc ça permet y compris de poser des questions pour permettre aux intervenants éventuellement de préciser quelques points, mais aussi bien sûr de donner votre avis. Donc.
Bonjour, Jean-Yves Cafil, je suis du mouvement pour un revenu de base, et je voulais justement répondre sur un point dont a parlé M. Grégoire, sur l'idée de remplacer tout, y compris le chômage, par un revenu de base. Alors, au mouvement pour un revenu de base, c'est pas ce qu'on défend. On défend un revenu de base qui ne remplace que le RSA et qui maintient les allocations chômage. Donc je voulais juste supprimer cette inquiétude.
Moi je me présente, je m'appelle Karim, je suis au RSA depuis 2008. J'ai quasiment jamais bossé, malheureusement. Ou heureusement, en fait, j'en sais rien. La question que je me posais en vous écoutant, alors il y a deux questions, alors enfin il y a plusieurs questions en fait. Quand vous parlez du salaire à vie, déjà vous n'avez pas donné de montant, voilà, on ne sait pas. Enfin, j'ai assisté à plusieurs conférences sur le revenu de base où ils proposaient des montants finalement qui étaient bien inférieurs au SMIC, qui variaient entre le RSA et le SMIC, mais et la question qui est posée, pour le coup, même si demain on touche un salaire à vie, est-ce que ça ouvrirait par exemple des droits à l'accès au logement pour les personnes qui sont en situation d'exclusion sociale par exemple? Enfin, je veux dire, est-ce que ça résoudrait vraiment tous les problèmes? Enfin, je sais pas, de vraiment d'extrême pauvreté et de précarité.
Bonjour, pardon. Moi j'ai une question un peu naïve peut-être sur le terme de salaire, le choix du terme de salaire. Moi j'ai beaucoup aimé votre présentation, je suis très sensible à tout votre argument sur la cotisation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets de financement, de revenus garantis qui ignorent la cotisation. Il y en a pas mal qui sont basés sur les travaux de Piketty qui pourtant dès son truc a indiqué dès le début que lui dans sa révolution fiscale il s'intéressait qu'aux fiscalités des individus et donc jamais à la manne énorme qui est dans la cotisation patronale, dans ce qui, même les impôts qui pèsent sur les entreprises. Mais alors, le terme de salaire, de salariat, moi, par contre, ceux qui ont un salaire socialisé, c'est les soignants, c'est les fonctionnaires. Mais alors là, en tant que salarié, ils ont aussi, comme toutes les personnes qui ont un salaire, ils ont un chef. Un salaire, ça veut dire un chef. Le salarié, c'est celui qui ne fait pas ce qu'il veut. Et c'est celui qui c'est pas sans condition, un salaire. Un salaire, c'est c'est lié à un poste de travail, à un patron, un patron qui soit patron public ou un patron privé. Donc voilà, c'est un lien de subordination. On a quand même tout un pan de lutte sociale aussi, qui me semble sont très proches des préoccupations qui nous réunissent aujourd'hui, qui se sont battues, pendant des siècles, pour l'abolition du salariat. Et choisir ce truc-là comme mot étendard, il y a une provocation à l'intérieur. Là, on est dans une provocation à l'intérieur des mouvements de lutte pour la bouche capitaliste, pour la sorte, pour la fin de l'exploitation. Quoi.
Non, c'était juste une petite remarque sur la question de la cotisation qui ne passe pas par le marché financier, qui est donc un flux. À partir du moment où l'UNEDIC, entre autres, finance sa dette entre guillemets en empruntant sur les marchés financiers, ça passe du coup par les marchés financiers et il n'y a pas forcément la question de flux et de cotisation, etc. Voilà, c'était une question par rapport à ça.
Oui, je me prête de malin, j'ai écouté attentivement les deux interventions qui comportent des aspects intéressants, mais assez curieusement, je n'ai rien entendu sur la réduction nécessaire du temps de travail compte tenu des mutations productives. C'est un oubli qui va se réparer parce que je suis inscrit parmi les prochains intervenants. Mais je trouve tout de même qu'on fasse des études chiffrées avec informatique, mais qu'on oublie cette question-là, et elle est oubliée dans la gauche politique et dans nombre de syndicats. Et sans vouloir psychanalyser le schmilblick, je me demande pourquoi on oublie toujours la réduction de travail sans laquelle on ne pourra rien faire et ne pas changer le rapport de force, capital, travail, etc. Mais bon, c'est une erreur, non, un oubli, excusez-moi, qui va être réparé tout à l'heure. C'était juste pour préparer votre intervention de tout à l'heure.
Oui, tout à l'heure, vous avez dit que financer un revenu par l'impôt, c'est faire un cadeau de 35 milliards au patronat, les propositions de financement par l'impôt sont celles d'un impôt plus progressif. Donc ce qui est retiré, ce qui serait éventuellement retiré en cotisation sociale, ce qui n'est pas le projet, je pense, du revenu de base. Le revenu de base ne parle pas de réduire les cotisations patronales. Il parle de financer un revenu en supplémentaire par l'impôt avec un impôt plus progressif. Donc il n'y a pas de cadeau au patronat, bien au contraire, puisqu'il y aurait un prélèvement sur les profits supérieurs et un prélèvement sur les revenus très importants, parce qu'il n'y a pas que les patrons propriétaires du capital, il y a aussi ceux qui ont des revenus salariaux ou des revenus de location ou d'autres, ou des revenus de spéculation très importants.
Oui, bonjour. J'ai écouté attentivement encore les interventions de Réseau Salariat et ce genre et cette proposition sur une continuité du salaire qui s'inspire du modèle des intermittents du spectacle. Et ce qui me frappe, plus le temps passe, c'est qu'en fait, moi, je ne sais pas où vous mettez la personne là dans les deux cas. La personne a disparu complètement. Elle est immédiatement qualifiée soit de chômeur, soit de producteur. En fait, disons que pour accepter, pour que nous acceptions et pour que d'autres acceptent vos solutions, il faut une révolution cognitive, une révolution des catégories de perception qui me semble mais infaisable, ce que la facilité du terme revenu que tout le monde comprend, parce que quelqu'un vous a fait déjà la remarque par rapport au salaire, est faisable. Enfin, je ne sais pas où vous mettez les gens. En fait, c'est un grand modèle. C'est une théorisation de la réalité. Le problème, c'est qu'une théorie de la réalité n'est pas la réalité, mais une théorie, un peu comme le mot chien n'a jamais mordu personne. Et on sait ce qu'il est advenu des modèles tout près, déjà, par le passé. Enfin, honnêtement, ça fait peur, quoi. Ça fait paléo-marxiste indécrottable, quoi.
Autre chose, moi, je ne suis pas plus pour 45, même si c'est une très belle conquête, ni pour 2003, je suis pour 2015 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des zones à défendre qui aujourd'hui défendent pas simplement des bouts de terrain, ils défendent aussi des formes de vie, des formes sociales de vie, et qui sont pas justement, comme je disais très bien le camarade tout à l'heure, sur le salariat, ils sont sur du service public ou autre chose, on sait rien, mais laissez-nous vivre. Hein, et fabriquer, et pratiquer, et échanger autrement. C'est-à-dire que c'est vrai, quand on parle du salariat, ça repose sur quoi ? Bah, c'est une forme de production qui est aussi très mortifère, et qui ne fait pas de lien. Hein, donc, de lien entre les êtres. Et ce qui fait du lien entre les êtres, c'est peut-être quelque chose à inventer. Je ne dis pas qu'il faut revenir au Moyen-Âge, mais il y a des formes de lien qui s'opèrent justement dans l'échange, dans d'autres formes de rapports. C'est-à-dire, il y a un bon slogan que j'aime bien employer, c'est « le travail crée des richesses, l'emploi des horaires ». Parce qu'on sait très bien qu'on nous met dans des horaires pour nous contrôler, pour contrôler des populations. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'arrive même pas à s'ouvrir, à ouvrir des portes, à laisser « bonjour madame, asseyez-vous, je vous offrirai un coup à boire ». Et puis, c'est fini. On est dans un égoïsme à cause, justement, d'une certaine pratique des droits sociaux. On est tombé, ici, en France, par exemple, dans une forme d'égoïsme. On n'est même plus capable d'avoir de la solidarité de façon vraiment d'être humain à être humain.
Juste, moi, je voulais quand même rajouter l'idée. Moi, je pense que quand il y a quelques années, on avait débattu de l'idée de continuité des droits. On passait pas forcément par le revenu, hein, en affirmant des droits sociaux, le logement, la santé, etc., où il y a des systèmes de gratuité qui répondent à des besoins immédiats. Et du coup, c'est vrai que la discussion sur la convention inédite dans quelques mois polarise notre discussion autour des questions de revenus, alors même que je pense qu'il y a beaucoup de droits, enfin même d'ailleurs tous les droits, peuvent être remplis à partir du service public, de la gratuité, ce qui permet d'ailleurs de créer d'autres systèmes de solidarité entre travailleurs pauvres, travailleurs précaires, chômeurs, et qui permettent de dépasser toutes ces coupures qui sont liées à des statuts, même si en même temps, je pense qu'il y a très largement des droits qui sont liés aussi au fait qu'on est chômeur, précaire, et pas simplement salarié au sens le plus large possible dans la société. Voilà, c'est donc pour moi je suis vraiment sur les points de départ d'Assé, qui était un emploi c'est un droit, un revenu c'est un dû, et je pense que cette force de lier les deux revendications continue et s'exprime toujours, y compris dans la tête des salariés qui réclament des emplois à temps complet, des emplois décents, etc. Voilà. Donc Mathieu, 5 minutes, puis après.
C'était très riche, donc du coup je vais pas répondre à tout. Moi, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, simplement, peut-être pour revenir sur quelque chose de, il y a des problèmes de la question du salaire. Il me semble qu'il ne faut pas se prendre la tête sur la définition. C'est un salaire, c'est assez simple. C'est quelque chose qui part du compte d'une entreprise et qui va sur le compte d'un salarié. Il se trouve que le salaire direct, c'est celui que vous verse votre entreprise à vous en tant que salarié, mais qu'ensuite, à cette occasion-là, l'ensemble des entreprises verse à l'ensemble des salariés un salaire collectif qui finance la protection sociale en France. Si vous n'avez pas ça, vous avez, comme vous avez aux États-Unis, admettons, votre entreprise à vous qui va vous financer votre assurance maladie à vous, par exemple. Et donc, on a vu Facebook proposer à ses salariés féminines de congeler ses ovocytes. Bon, bah pourquoi pas? Mais je veux dire, dans ce cas-là, effectivement, on est dans un salariat qui ressemble plus au salariat du 19e siècle, c'est-à-dire où tout ce que vous avez dépend de votre employeur. La force du salariat en Europe et en France en particulier, ça a été de dire, on va mutualiser une certaine partie du salaire. Et ce salaire-là, cette partie-là qui, avant, était notamment le salaire qui était versé dans le paternalisme, notamment par un employeur qui voulait contrôler sa main-d'œuvre, etc., le salariat a pris le pouvoir sur cette partie du salaire collectif. Donc, il me semble que dire on est pour l'abolition du salariat, faut dire est-ce qu'on est encore au 19e siècle? Est-ce que le salariat que nous avons sous les yeux, c'est le salariat que voit Marx? Est-ce que c'est le salariat que voit la CGT naissante? Ou est-ce que c'est un nouveau salariat qui a progressé, qui a gagné des droits et qui, en ce sens-là, doit être défendu? C'est pas de défendre le salariat pour défendre l'exploitation, la subordination, etc. C'est de défendre ce qui, dans le salariat, a été une prise du pouvoir des salariés et qui est une prise du pouvoir qui dépend forcément du fait qu'on a la main sur les employeurs. Mais ça reste dans le salariat. Ça reste dans le salariat parce que quand les chômeurs manifestent, quand il y a une convention d'assurance chômage, on manifeste pas n'importe où. On manifeste sous les fenêtres du MEDEF. Et le rapport social qui est en jeu, c'est un rapport social de salariés étendu à des employeurs étendus. C'est pas votre employeur, c'est le MEDEF. Mais on reste dans ce rapport social-là. Et sortir de ce rapport social-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller, manifester contre le contribuable. On va aller manifester contre le siège des poujadistes qui vont dire non, mais nous, on veut pas payer d'impôts, etc., etc. Donc, il y a un danger dans le financement. Je pense que il faut pas. Non, mais je termine. Je dis juste que dans le revenu de base, on est d'accord sur beaucoup de choses, et je suis d'accord pour dire qu'il y a des complémentarités très fortes sur l'essentiel. C'est-à-dire l'essentiel, c'est le fait qu'il y a un revenu garanti, inconditionnel, etc. Que ça, ce sont des convergences fortes, et que la question technique qui se pose derrière, c'est la question du financement. Et que là-dessus, il y a des discussions qui me semblent qu'il y a une erreur à considérer qu'il faut faire payer aux contribuables. Ce qu'on peut faire payer dans le cadre d'une histoire sociale, et on n'est pas dans un truc abstrait, une théorie abstraite, on est dans l'histoire de deux siècles de salariat, de deux siècles de conquête sociale, qu'il faut poursuivre et maintenir dans ce rapport de force avec le patronat. Et pas dire au patronat, excusez-nous, finalement, ça fait deux siècles qu'on se bat, mais nous, on n'a plus envie de se battre avec vous, on va se démerder entre nous pour financer ce qu'on va pouvoir sur la misère que vous allez nous laisser. Parce qu'au fond, c'est un peu ça l'enjeu, c'est-à-dire, est-ce qu'on redistribue la misère que nous laisse le patronat, ou est-ce qu'on se bat avec le patronat pour augmenter la part qu'on va se partager?
Bon, il y avait beaucoup de choses, hein, vraiment, dans vos interventions. Je vais pas pouvoir répondre à tout. Pour ce qui est le plus facile, disons, donc salaire à vie, nous, on envisage un montant qui oscillerait entre 1 500 € et 6 000 €, avec des épreuves de qualification, puisqu'on adosse, en fait, le salaire socialisé à la qualification, non pas à la qualification professionnelle comme elle existe aujourd'hui dans le secteur privé, mais à la qualification personnelle qui est le grade du fonctionnaire et qu'il transporte partout et qui n'est qu'ascendante et qui montre qu'en fait, enfin qui signale en fait que l'individu a un potentiel de production et de décision sur la production. Que n'avait pas le salarié, et c'est pour ça que je rejoins Mathieu, c'est pas le salariat du 19e siècle. Le salariat du 19e siècle était payé à la pièce ou à la tâche, c'est-à-dire à la productivité. Nous, ce qu'on propose, c'est évidemment de ne pas retomber là-dedans, dans cette aliénation qui est absolument déplorable, mais d'adosser donc le salaire à vie à la qualification personnelle de l'individu. Et dans les luttes sociales, l'élément essentiel, ça a été la création des conventions collectives qui ont mis en place les fameuses grilles salariales qui nous ont permis de nous émanciper, pardon, de ce salaire à la pièce et à la tâche. Les femmes au foyer, bien évidemment, payées par le salaire à vie, comme tout individu et tout salarié, qui est au cœur de notre réflexion. L'individu est au cœur de notre réflexion, contrairement à ce qui a été dit. C'est l'humain qui est au cœur de notre réflexion. Le problème dans... on donne l'impression de faire de la théorie. C'est pas du tout de la théorie. On est en train de réexpliquer les fondements de la sécurité sociale. Puisque l'idéologie dominante a été tellement forte qu'elle a occulté cette histoire de la sécurité sociale, à tel point d'ailleurs qu'on dit que la Sécu a été... les ordonnances ont été signées par De Gaulle, pas du tout. Elles ont été signées par Parodi et elles ont été mises en œuvre par Croizat, ministre communiste. Donc De Gaulle n'en voulait pas de la sécurité sociale, il a tout fait d'ailleurs pour la casser, et il a pris les décisions qu'il fallait dans les années qui ont suivi pour commencer son démantèlement. Donc notre exercice à nous, Réseau Salariat, c'est pas du tout de faire de la théorie, c'est de présenter des choses que l'on ignore, qui ne sont même pas apprises à l'école sur l'histoire de la sécurité sociale, et de remettre au cœur l'humain. Je pense qu'il y a une incompréhension du coup de ce qui a été dit. Alors effectivement, historiquement, il y a eu deux cotisations. Il y a eu la cotisation salariale et la cotisation patronale. C'est bien antérieurement d'ailleurs aux assurances sociales des années 30, puisqu'il y a eu une double initiative en fait. Une initiative du patronat qui était dans l'optique de paternalisme, de créer la cotisation patronale qui venait abonder des comptes et qui fonctionnait en capitalisation, et la cotisation salariale qui émanait du salariat, bien évidemment, avec des caisses de secours, et des caisses de résistance, etc., des caisses d'affinité, les anciennes caisses d'affinité, qui étaient financées en partie par le salariat. Donc historiquement, les deux ont existé, sauf qu'elles ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. C'est pour ça que je les dissocie. Celle qui est vraiment révolutionnaire, c'est la cotisation patronale, mal nommée, malheureusement. La cotisation salariale est plus ennuyeuse parce qu'elle est dans le salaire brut. Si elle augmente et que le salaire brut n'augmente pas d'autant, évidemment, ça diminue le salaire. C'est pour ça qu'elles sont vraiment différentes, les deux, en réalité. Et c'est pas un problème technique, c'est un problème politique. Sur le rapport de force. Alors cette question, évidemment, elle revient à chaque fois. C'est à nous à le faire, le rapport de force. Je suis désolée de me référer toujours à l'histoire, mais en 1945, le rapport de force était favorable à nous. Alors il y a ce retournement intellectuel à faire, parce qu'on a derrière nous 70 ans, disons 40 ans, d'idéologie dominante où on nous assène l'emploi, le marché du travail, l'employabilité, l'activation des dépenses passives, la sécurisation des parcours professionnels. La CGT avait inventé la sécurité sociale professionnelle qui est un beau projet, voilà. Mais malheureusement, elle a perdu la CGT par rapport à ça. C'est la sécurisation professionnelle de la CFDT qui l'a emportée, c'est-à-dire la flexécurité, ça a été dit tout à l'heure. Donc le rapport de force, c'est à nous à le construire, hein.
Voilà, merci d'avoir écouté. C'était le forum chômeurs précaires, intermittents, revenus et des droits pour exister. La suite est bien la semaine prochaine et on parlera de la réduction du temps de travail et des moyens de la lutte. Merci à vous. Tout de suite, CSM.